Frères et sœurs, la grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père par la puissance de l'Esprit. Je vous invite à vous lever pour nous mettre face à cette source de grâce et de paix en chantant le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de notre psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ton royaume est là, présent, au milieu de nous. Il est dans l'Évangile proclamé et médité, dans la musique, dans les cantiques, dans le silence, dans la prière, dans le voisin qui est là, sans que nous l'ayons choisi et qui devient notre frère. Dans tout ce qui nourrit la foi. Alors Seigneur, accorde-nous un cœur de pauvre pour accueillir et découvrir ce que tu nous donnes à vivre. Que ton royaume nous saisisse, qu'il nous convertisse. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre psautier français au psaume 19. Comme la semaine dernière, nous allons d'abord laisser à notre organiste le soin de jouer une première fois la mélodie de l'ensemble de ce psaume, de manière à avoir la mélodie dans l'oreille, après quoi nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du psaume 19. Prenons place pour entendre un passage du livre du Deutéronome. C'est à Moïse que sont attribués ces mots. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Frères et sœurs, méditons ces paroles par le répond que nous joue notre organiste. Éternel notre Dieu, parmi les idoles qui encombrent notre vie, il y a celles que tu as déjà brûlées, mais que bien souvent nous essayons de sauver de la flamme. Parmi les fardeaux qui chargent notre cœur, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui entravent notre amour, il y a celles que tu as déjà brisées. Nous avons cette fâcheuse tendance de vouloir devenir à nouveau captifs, de retourner dans la maison de servitude où la marmite est pleine, préférant souvent le ventre plein à la liberté si effrayante. Des idoles encore aimées que nous connaissons trop, délivre-nous, Seigneur. Des fardeaux inutiles qui nous attardent loin de toi, délivre-nous. Des chaînes accablantes que nous ne voulons plus dénouer, délivre-nous. Amen. Et voici des mots issus du livre du prophète Ézéchiel pour faire écho à cette prière. Des paroles qui constituent un oracle de l'Éternel selon ce livre. « Je vous retirerai d'entre les nations, Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Et nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. L'Éternel, c'est ce Dieu avec nous, qui brise toutes les fausses images divines, celles que les hommes se forgent. Toutes ces divinités, sorties de l'imagination affolée des hommes, et dotées par eux d'une puissance asservissante en réalité. Il est là, il vient. Ce Dieu, fait homme, vient nous libérer des idoles du monde, des idoles de l'Église, de nos propres idoles et de la sécheresse de notre cœur. Il vient faire refleurir le désert devenu aride, ce désert d'une religion qui peu à peu a perdu le chemin de la foi, de l'espérance, de l'amour. Il vient. Il est là. Ce Dieu, notre Dieu, est semeur de vie. Il nous fait bondir de joie, il nous fait reprendre la route, il nous met en marche. Il est humble, joyeux et généreux comme ce petit enfant de Bethléem. Il vient, il est là. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs, j'ai retenu pour notre méditation ce matin un texte dans le livre du prophète Jérémie, un charmant texte. C'est Jérémie qui s'exprime sur les idoles. Vous l'aurez peut-être compris à travers le fil conducteur qui a permis d'établir le début de cette liturgie. Dans le livre de Jérémie au chapitre 10, je vais vous lire les versets 8 à 16. Tous ensemble, ils sont abrutis et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Uphaz de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Lui a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. De son côté, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Éternel notre Dieu, ta parole est source de vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre votre recueil de chants au numéro 183, de manière à chanter à Dieu notre demande d'être éclairé par sa révélation. Cantique 183, les strophes 1, 2 et 3. Éternel notre Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton esprit, par ta capacité à nous mettre en relation avec plus grand que nous-mêmes, plus intelligent que nous-mêmes, plus audacieux que nous-mêmes, rends ce texte vivant pour qu'il devienne pour nous la source dans laquelle nous pouvons trouver ta parole. Chers frères et sœurs, en matière de lutte contre les idoles, le protestantisme n'est pas trop mal placé. Si la naissance du protestantisme eut lieu au moment où Martin Luther afficha ses 95 thèses contre les indulgences, le véritable premier cri du bébé protestant se fit au moment où Luther brûla la décision du pape de l'excommunier. Considérant que le pape devenait là une idole à laquelle il n'était pas question pour lui de sacrifier sa conscience personnelle. Dès les origines, le protestantisme fut un acte de rébellion, une rébellion qui n'avait rien d'une crise d'adolescence qui consiste à s'opposer aussi systématiquement que de manière irraisonnée à tout ce qui pense. Il s'agissait là d'une posture clairement ancré dans sa compréhension des textes bibliques et qui consistait à mener une lutte résolue contre toute forme d'idolâtrie. Et force est de constater que la lutte contre l'idolâtrie fut un trait caractéristique de la Réforme dès le XVIe siècle. À tel point d'ailleurs que les catholiques traiter ceux de la religion prétendue réformée d'hérétiques, qui le leur rendaient bien en les traitant d'idolâtres. Et les protestants français en particulier sont réputés pour avoir copieusement cassé les statues qui ornaient les églises, pour s'être dispensés de toute forme de représentation divine en vertu du décalogue qui le stipulait, et ne jetez pas des regards trop condescendants vers ce qui reste de figuration ici dans ce temple, c'est la faute au cardinal de Bérulle. À vrai dire, les protestants ne se sont pas limités à la question des images figuratives. Ils ont aussi repensé la théologie, par exemple pour libérer le Christ de l'hostie, qui était censé enclore le divin dans un petit cercle de céréales. N'en restant pas au degré zéro de la lutte contre les idoles, ils ont aussi battu en brèche quelques idoles théologiques, parmi lesquelles Les plus connus sont certainement Marie, qui allait connaître dans les siècles suivants, en régime catholique, une véritable mariolatrie, en compagnie de bien des personnes qui, au lieu d'être qualifiées de saintes, étaient considérées en protestantisme comme des figures de référence. Jésus de Nazareth ne fut pas épargné. En distinguant le Jésus de l'histoire, le prêcheur de Galilée, du Jésus de la foi, et en distinguant d'autre part Jésus, l'homme, du Christ, cette fonction bien particulière dont on dit qu'elle fut particulièrement incarnée par cet homme-là, le protestantisme s'est efforcé d'en finir avec les prémices d'une jésulatrie qui en venait à faire de toute vie la pâle imitation de Jésus, qui consistait à faire de Jésus le point de convergence de tous les regards, de toutes les attentions, de toutes les intentions, et qui, pourtant, n'avait eu de cesse tout au long de son ministère de s'effacer en permanence pour permettre à chaque croyant de se tenir face à Dieu directement. À Dieu seul la gloire. Ça, c'est un slogan bien connu, un véritable mot d'ordre qui fut particulièrement clamé par la réforme protestante, qui par la même relativisait toute forme de pouvoir qui entendait soumettre la conscience des fidèles, alors que les textes bibliques, eux, s'efforcent inlassablement de nous rendre libres à l'égard de tout et solidaires à l'égard de tous. Allant encore plus loin, la réforme protestante dans son aile libérale, celle qui est si chère au cœur de la plupart des pasteurs qui occupent cette chaire de l'oratoire, s'est évertuée à casser les idoles qu'étaient devenus les mots du vocabulaire religieux, refusant d'utiliser les mots fourre-tout de la foi chrétienne, la grâce. Alors ça, la grâce, c'est vraiment le mot facile en protestantisme. Au nom de la grâce, je veux dire, tout est possible. L'amour, sans distinguer s'il s'agissait de l'éros, de la philia, de l'agapé. Dieu, alors ça, c'est le concept fourre-tout. Au nom de Dieu, on est tous frères. La résurrection, la scène, l'Église, le Christ, l'Esprit Saint, les miracles, les guérisons, le parler en langue. Bon. Tous ces concepts furent interrogés pour essayer de les réinvestir avec un sens qui levait les ambiguïtés, qui faisait que les choses étaient compréhensibles par tous et que cela ne devenait pas en quelque sorte des cache-sexe théologiques qui permettaient de dissimuler la vacuité de la pensée de celui qui utilisait ces mots. Bref, un effort pour faire craquer le vernis religieux, pour retrouver le souffle de la foi, cette foi en l'Éternel dont il est question dans le livre du prophète Jérémie et dont les héros bibliques en sont les témoins. Le protestantisme libéral n'a pas tenu pour un acquis définitif les dogmes du passé non plus, fussent-ils élaborés par les pères de la Réforme. Il n'a pas hésité à revenir sur des doctrines utiles en leur temps, mais qui n'ont plus leur raison d'être de nos jours. Je pense bien sûr à la double prédestination. Mais on peut aussi penser à quelques images de Dieu surannées. On peut aussi penser à des doctrines qui n'étaient pas vraiment destinées à relever l'âme, mais plutôt à faire courber les chines. Et puis aussi refuser de continuer à avoir une vision de l'homme qui n'avait plus aucun rapport avec ce que ce protestantisme libéral comprenait de l'anthropologie biblique. Et c'est la raison pour laquelle il ne convenait pas de continuer à envisager que les femmes soient impropres au ministère pastoral, que les personnes homosexuelles soient impropres à la vie de la communauté, que les croyants d'autres religions soient impropres au dialogue et à l'estime mutuelle, que les incroyants soient considérés comme des personnes impropres au moindre intérêt, et que les sciences théologiques les sciences non théologiques, pardon, soient considérées comme des disciplines impropres à dire des choses intéressantes sur la marge du monde, j'en passe, et des meilleures. Bref, la lutte contre les idoles fut un programme largement mis en œuvre par le protestantisme. Et la lutte contre les idoles fut une manière de mettre en œuvre ce programme plus spécifiquement énoncé par ce principe qui est devenu en quelque sorte notre marque de fabrique, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, l'Église réformée est toujours à réformer. Sinon, elle cesse d'être elle-même. Se réformer sans cesse, on pourrait dire que cela participe aussi d'une forme de crise d'adolescence. Vous savez, cette bougeotte qui consiste à gesticuler dans tous les sens et qui nous donne l'impression de vivre parce qu'on bouge. Mais ce n'était pas une bougeotte chronique dont souffraient nos anciens, et ce n'est pas d'une bougeotte non plus dont nous souffrons lorsque nous essayons de réformer les institutions, les pensées, les discours. Il s'agit pour nous de ne pas laisser les choses en l'état, surtout lorsque l'état n'est pas satisfaisant. Il s'agit de ne pas se laisser enfermer dans une vision statique du monde, de la vie, alors que le monde, la vie, eux, ne cessent de bouger, ne cessent d'évoluer, ne cessent de changer, de se métamorphoser. Il faut toujours se souvenir que ce qui ne change pas avec la vie, c'est qu'elle ne cesse de changer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas là pour faire du suivisme, pour courir après la modernité, mais pour pouvoir l'accompagner et pour pouvoir lui permettre peut-être, espérons-nous, de changer dans les meilleures conditions qui soient, de se métamorphoser vers un joyeux papillon en ce qui concerne la chenille, plutôt qu'en une chose affreuse, mais quelle chose affreuse dans le monde pourrait être cette bonne métaphore ? À vrai dire, le christianisme ne s'en est pas tenu là. Et quand je dis christianisme, je pense aussi bien au protestantisme, évidemment, qu'au catholicisme, qui s'est aussi efforcé d'entreprendre une lutte contre les idoles, qui n'était pas seulement dans le champ de la religion. Bien souvent, vous entendez des critiques au sujet d'un certain Mammon. Mammon, c'est l'idole qui représente l'argent roi, parfois hissé au rang de Dieu, qui déciderait de tout dans la marche du monde, marche du monde qui ne serait plus que l'œuvre d'un grand marché. Il y a aussi les idoles dans le champ politique, qui ont été l'objet de paroles prophétiques. Parfois, on pense à Karl Barth, au moment de la rédaction de la Confession de foi de Barmen, qui soulignait à quel point le pouvoir nazi était à récuser en vertu du fait qu'il se parait des vêtements religieux et qu'il prenait en quelque sorte une posture divine. Que ce soit Martin Luther King qui a fait tomber l'idole raciale pour ouvrir à l'ensemble de la population américaine l'accès à l'intégralité des droits, et bien d'autres encore. Seulement, je crois que nous avons un petit travers en protestantisme, c'est de nous limiter à ces champs-là, et surtout d'être très frileux à l'égard d'autres choses qui sont tout autant idolâtriques. Je veux dire par là que, par les temps qui courent, par une sorte de retour de balancier, à l'opposé d'une époque où les théologiens considéraient peut-être qu'ils étaient au-dessus du panier, que la théologie était la discipline maîtresse, que c'est elle qui devait régner sur la Sorbonne et sur toutes les facultés. Eh bien, par un retour de balancier, nous considérons peut-être que la théologie n'a plus grand-chose à dire à la vie quotidienne, qu'elle doit être confinée à l'espace culturel, qu'elle est intéressante pour parler, pour mettre en forme les mots de la religion, tous ces mots du patois de Canaan, mais que pour la plupart des aspects de notre vie quotidienne, il vaut mieux laisser aux spécialistes le soin de s'exprimer. Je ne crois pas que cela soit aussi juste. Il ne me semble pas que la théologie doive rester dans l'ordre du privé, voire du privatif, voire de l'intime un peu honteux, comme ces artisans qui construisent finalement des idoles dont ils deviennent les prisonniers. Et pour essayer de vous montrer à quel point la lutte contre les idoles ne devrait pas se cantonner au domaine strictement religieux, pour ne pas dire cultuel, pour vous montrer que nous pourrions peut-être oser appliquer aussi nos talents en matière de chasse aux idoles à d'autres aspects, cesser d'être frileux pour dénoncer quelques idolâtries coupables d'abrutir nos contemporains. Eh bien, pour montrer que nous sommes aussi capables de distinguer les vessies des lanternes, j'aimerais prendre comme exemple les champs qui sont le plus à l'opposé de la théologie, ceux dont nous estimons que nous n'avons rien à dire parce que nous sommes vraiment trop incompétents et qu'en quelque sorte ces disciplines sont devenues les disciplines reines. Je pense aux sciences que l'on qualifie d'un peu dures, physiques ou biologiques. Ne sommes-nous pas, nous aussi, équipés, en fait, pour lutter contre les idoles qui ne sont que mensonges, qui n'ont pas de souffle, qui n'ont pas de capacité à nous aider à vivre, mais qui sont érigées par ces disciplines? J'aimerais soutenir cette hypothèse en m'appuyant sur des exemples pris donc dans ce domaine des sciences un peu raides, en empruntant des situations exposées par le journaliste scientifique Michel de Pracontal, qui, dans un livre tout à fait intéressant, s'efforce de montrer quelques impostures scientifiques. Et il me semble que les impostures scientifiques, nous pourrions en parler en termes d'idolâtrie et être à même, nous, chrétiens, de pouvoir les débusquer ou du moins en mesure de pouvoir les qualifier. Alors évidemment, la plupart du temps, en tant que théologiens, nous sommes tous théologiens, nous n'avons pas vraiment les moyens de savoir si une théorie scientifique est juste ou fausse. Surtout si nous n'avons comme élément pour se faire une conviction que la lecture d'un compte-rendu ou d'un article. Ceci étant, les scientifiques ne sont pas mieux dotés que nous. Je veux dire qu'un scientifique qui a sous les yeux un article écrit par un confrère n'a que deux possibilités. Soit il fait une confiance aveugle, soit il fait une contre-expertise en essayant de reproduire les expériences réalisées pour vérifier que la théorie est juste. Alors évidemment, la confiance aveugle, ce n'est pas vraiment notre pain quotidien. Nous préférons le doute qui permet de vérifier ce qui est affirmé et vérifier notamment que cela a bien un rapport avec le réel, un rapport avec la terre et le ciel, et que nous ne sommes pas dans une création de toute pièce d'un univers parallèle qui n'aurait plus aucun rapport avec le réel. Le plus souvent, nous, théologiens, nous n'avons pas les moyens objectifs de mener ces contre-expertises. Nous n'avons pas les moyens, par exemple, de dire que la tête de Léoanthropus, signifie l'homme de l'aurore, que cette tête, soi-disant découverte par Arthur Smith Woodward au début du XXe siècle, et qui devait constituer le chaînon manquant entre le singe et l'homme, nous n'avons pas les moyens de dire qu'en fait, c'était l'assemblage astucieux d'une mâchoire d'âne avec un crâne humain. Nous n'avons pas les moyens non plus de découvrir que William Summerlin, qui disait avoir réussi à greffer la peau d'une souris blanche sur une souris grise, ce qui a priori provoque des rejets, donc n'est pas vraiment possible, maquiller en fait ces souris grises avec un colorant blanc, lui qui fut pris sur le vif dans la nuit du 27 mars 1974. Nous n'avons pas non plus, en tant que théologiens, les outils pour infirmer que l'eau aurait une mémoire, ce qu'affirma pour sa part le biologiste Jacques Benveniste, qui, après avoir introduit dans de l'eau une molécule réactive à un produit tiers, puis après avoir procédé à une vingtaine de dilutions de ce liquide à raison d'une goutte de ce liquide dans 100 autres gouttes d'eau, et en reproduisant 20 fois cette expérience, même 30 pour le plaisir du jeu. Et donc, au terme, obtenant un liquide, obtenant un produit dilué de la sorte et qui restait réactif au produit tiers, alors qu'au bout de tant de dilution, la molécule active de départ a disparu parce qu'elle a été diluée. Bref, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir infirmer qu'en versant un jour une bouteille de whisky dans le lac Léman et en revenant un an après, en prenant un verre d'eau, notre alcotest sera positif. Une équipe d'experts indépendants faisant reproduire cette expérience sous son contrôle au biologiste en question constata que le biologiste n'arrivait pas à obtenir à nouveau les résultats pourtant publiés. Nous pouvons avoir de sérieux doutes sur tout cela, mais nous n'avons pas les moyens de confirmer ou d'infirmer, c'est juste. Dans tous ces cas, nous n'avons pas les moyens de déceler l'imposture scientifique. Mais nous sommes capables d'identifier l'idolâtrie, une fois la supercherie mise à jour par les collègues scientifiques. Idolâtrie de l'Empire britannique par Arthur Smith Woodward, qui pouvait difficilement supporter que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon furent découverts en France et que les Britanniques, eux, n'aient rien à se mettre sous le microscope. Idolâtrie de la race pour l'expérience sur les souris, l'étape suivante étant de greffer de la peau blanche sur des personnes ayant la peau noire. Idolâtrie de l'homéopathie qui procède des mêmes méthodes de dilution et qui n'a pas la caution des scientifiques, par Bernard Poitevin, un jeune médecin de l'équipe du biologiste en question, Benveniste, qui réussit à convaincre son directeur de thèse. Il y a des cas où nous ne pouvons pas débusquer l'idolâtrie, mais où nous pouvons la qualifier, comme c'est le cas ici. Il y a des cas où nous, théologiens, nous sommes quand même capables de mettre en évidence l'idolâtrie ou l'imposture scientifique. Ainsi, lorsque Cyril Burt voulut savoir si l'intelligence était héréditaire ou non, bonne question à vrai dire, il étudia des paires de vrais jumeaux. Bon moyen d'expérimentation à vrai dire. Surtout que ces vrais jumeaux étaient choisis dans un échantillon très particulier. Ils avaient été élevés, séparés les uns des autres. Entre 1943 et 1966, Burt publia donc les résultats des tests de quotient intellectuel effectués sur 15 couples, puis il publia sur une étude concernant 21 couples, puis 30, puis 53 paires de vrais jumeaux élevés de manière séparée. À chaque fois, et à chaque étape de l'expérimentation, les résultats étaient concordants à la troisième décimale près. L'intelligence était donc héréditaire, puisque deux jumeaux ayant été élevés de façon séparée, lorsqu'on les interrogeait de façon séparée pour mesurer leur quotient intellectuel, obtenaient le même résultat et la concordance était à la troisième décimale près. Et cela se vérifiait pour 15, puis pour 21, puis pour 30, puis pour 53 paires de jumeaux. Pas besoin d'être un féru de statistiques pour comprendre qu'il y a là une supercherie, troisième décimale près. Admettons que nous soyons vraiment fâchés avec les mathématiques. Ne sommes-nous pas équipés pour dire que chaque être est singulier, à moins que nous ayons un peu honte de nos convictions, à moins que nous ayons le sentiment qu'en fait ce n'est pas vraiment étayé, que nous n'y croyons pas trop, que c'est ce qu'il faut penser, mais que ça ne tient pas vraiment la route par rapport à une démarche super scientifique. À se demander si lorsque nous disons que quelqu'un est vraiment singulier dans son identité, que cela ne dépend pas de ses parents, que les parents peuvent manger des raisins verts et que les enfants ne doivent pas avoir les dents agacées pour autant? Est-ce que c'est juste un effet de langage? Est-ce que ça fait joli sur le papier? Est-ce que c'est une sorte de méthode couée pour nous convaincre que nous sommes uniques et que cette théorie générale serait en fait bonne pour nous, histoire de redorer un peu notre blason? En fait, non. C'est parce que cela participe de notre expérimentation de l'humain, de ce que nous constatons au jour le jour, au regard informé par l'épaisseur de ces expériences humaines contenues dans les textes bibliques. Je veux dire par là que nous ne sommes pas moins équipés que d'autres pour parler du vivant. C'est parce que nous aussi nous expérimentons. C'est parce que nous aussi nous avons des procédures critiques d'évaluation de ce que nous disons, que nous pouvons établir que cette théorie, celle de l'intelligence héréditaire, n'est pas forcément très juste. Que nous pouvons poser que deux jumeaux sont différents sur le plan de l'intelligence. Intelligence qui d'ailleurs n'est pas réductible à un QI. Tests de QI qui parfois sont un peu des idoles d'ailleurs. Le QI d'ailleurs lui-même est parfois un peu une idole. Bref, je pense qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la mort de ce psychologue et de lire dans ses notes personnelles que les cas étudiés à partir de la deuxième étape étaient en fait des inventions de sa part, que ses assistantes n'avaient pas existé, pour repérer qu'il s'agissait de ce qu'on appelle vulgairement un bidonnage de la part d'un individu idolâtrant le gène, le tout génétique, et voulant préparer la voie à l'eugénisme. Comme Jérémie nous le rappelle, la théologie s'intéresse au vrai et pas au crédible. Ce qui compte, c'est la capacité d'une théorie, d'un discours, à rendre le monde plus compréhensible. Et cela est vrai pour la théologie. L'objectif d'une théorie n'est pas de conformer le monde à ses idées, à ses schémas, à ses fantasmes, à ses envies, à ses idoles. En théologie, un discours ne peut pas se contenter d'être vrai sur le plan grammatical. Il faut qu'il le soit aussi au regard du vivant. Et Jérémie nous encourage à ce que nous fassions un usage massif de nos neurones pour ne pas être du côté de ceux qui sont facilement abrutis par des discours qui sont bien construits, avec des artisans astucieux qui embellissent le projet, qui rendent les choses magnifiques avec tout ce qu'il faut d'or, de pourpre et d'argent, mais qui ne décrit pas le réel, qui décrit simplement les fantasmes de l'auteur. Parce que l'imposture scientifique, au même titre que toute imposture intellectuelle, relève pour une part de l'idolâtrie, nous sommes équipés. Nous sommes en mesure d'apporter des réfutations sérieuses à ceux qui s'évadent dans des mondes imaginaires, sans rapport avec la création. De nos jours, les idoles ne sont plus faites de bois, mais elles restent de la matière dont on fait les pipeaux. Pour ce qui nous concerne, notre adhésion va à Dieu. Ce Dieu qui a un rapport avec la vérité, nous dit Jérémie. Non pas le Dieu de nos rêves, le Dieu de la vérité. Pour ce qui nous concerne, voilà quel est notre projet. Et ce Dieu de vérité, nous rappelle Jérémie, nous donne les moyens de transcender notre condition d'abruti potentiel et de hisser notre science à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes affrontés au quotidien et pas simplement ici dans cette vénérable institution. Amen. C'est dans notre recueil de chants, louanges et prières que nous allons chanter au cantique 78, et non pas le psaume 78, le cantique 78, les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. Place. Dans notre calendrier, je vous rappelle que mercredi, nous avons notre lecture biblique de l'été. C'est à 12h30, de 12h30 à 13h30, en face, à la bibliothèque 4 rue de l'Oratoire. Cette fois, ce sera consacré au couple Saül-Samuel. Ce sera essentiellement dans le premier livre de Samuel au chapitre 28, le moment où Saül va consulter la sorcière d'Endor pour faire remonter Samuel du séjour des morts. Dimanche prochain, nous essaierons d'avoir un moment un peu plus lumineux que ce chapitre 28 du premier livre de Samuel, tout à fait intéressant par ailleurs. Notre culte sera donc à 10h30. Je vous rappelle que vous avez à la sortie du temple un petit document qui vous présente ce que nous proposons comme week-end pour l'Assemblée du désert. Le premier week-end de septembre, nous organisons un séjour dans les Cévennes de manière à être présent à l'Assemblée du désert qui a lieu le dimanche au Mas Soubéran, près de Mialé, le grand rout des Parpaillots chaque année. Et cette année, c'est le professeur Laurent Gagnebin qui préside le culte, ce qui augmente l'intérêt de la rencontre. Donc, prenez les papiers, les inscriptions vont bientôt se terminer. Il y a encore de la place, mais ne tardez pas trop si le cœur vous en dit. Voilà pour les informations à partager dans le calendrier. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, que ce soit un moment de joie et de reconnaissance. Thank you. Nous nous unissons dans la prière. Éternel, tu as conduit le peuple d'Israël dans le désert pour le faire venir au monde, pour le délivrer de l'esclavage des idoles. Aide-nous, nous aussi, à nous libérer de toute idolâtrie. Tu as appelé ton peuple dans le désert pour faire alliance avec lui. Fais-nous revenir dans ce désert-là, afin que nous puissions mieux comprendre ton alliance, mieux en profiter, mieux la vivre, y être plus fidèles. Éternel, tu as conduit ton peuple avec une nuée le jour, avec un feu la nuit. Nous avons besoin de cela, nous et ceux qui vivent autour de nous. Nous avons besoin de repères qui nous aident à progresser dans la vie, qui nous aident à cheminer, des repères qui nous permettent de ne pas rester dans l'obscurantisme, qui nous permettent de ne pas nous ficher en terre dans nos certitudes, dans nos idées toutes faites, et souvent idées incapables de pouvoir mieux comprendre la vie, de la rendre plus familière. Éternel, tu as fait pleuvoir le pain du ciel et tu as fait jaillir l'eau du rocher pour subvenir à ton peuple qui marchait vers cette terre promise. Nous voulons, nous aussi, être des pèlerins en marche vers ton royaume. Nous avons besoin, nous aussi, de recevoir ta parole de vie. Nous avons besoin de recevoir ce qui est essentiel pour nous, pour que nous ne dépérissions pas, pour que nous ne nous usions pas prématurément, pour que nous puissions rester des témoins d'espérance pour ceux qui désespèrent, pour que nous puissions rester des pôles de réconfort pour ceux qui souffrent, que nous puissions rester des aiguillons pour ceux qui s'enferment dans leur logique. Éternel, tu as donné à Israël ta parole, tes commandements, ton enseignement, la Torah, qui lui indique le chemin de vie. Garde-nous fidèles dans le souvenir et dans la pratique de cette Torah, mais surtout renforce notre intensité à vouloir être en dialogue avec elle. Ne pas en faire un objet figé, un objet dépassé, mais un instrument utile pour nous repérer et pour identifier ce que nous croisons. Éternel, tu as conseillé à Moïse de dresser le serpent dans le désert pour que ceux qui le regardent aient la vie. Eh bien, donne-nous de contempler la vie avec le regard de Jésus, par exemple, mais de bien regarder la vie et de ne pas avoir les yeux fixés sur des idoles qui ne bougent plus, qui n'ont plus rien à dire, qui n'ont plus rien à nous apprendre, qui sont juste capables de réduire notre horizon. Ce n'est pas vers Jésus que nous tournons notre regard, mais c'est grâce à lui que nous tournons notre regard sur la vie, sur ce qu'est la vie véritable, cette vie à laquelle tu nous appelles. Et c'est avec ces mots que nous te disons à la suite des disciples, en nous levant à la manière des personnes ressuscitées capables d'entreprendre à nouveau leur marche, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.